RFI. Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Cantner.
Dernière partie de RFI Midi, nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel, avec Haïti à la une, où l'on devrait connaître la composition du gouvernement dans la journée. Nous en parlerons dans un instant avec le directeur de l'agence Alter Press. Reportage aussi au Venezuela, où l'opposition tente de mobiliser au maximum avant la présidentielle du mois prochain. Elle est donnée en tête par les sondages, mais se prépare à des manipulations de la part du régime Maduro, vous l'entendrez dans quelques minutes. Et puis l'actualité des Outre-mer, Tiziana Maron, on parlera avec vous d'une rencontre historique qui a eu lieu hier en Guadeloupe au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale en France.
Oui, 9 partis politiques et organisations autonomistes et indépendantistes réunis pour la première fois au nom de l'autonomie pour le département. Les détails dans quelques minutes, Anne.
A tout à l'heure, Tiziana Maron. Pour l'heure, on va faire le point sur l'actualité internationale.
RFI Midi.
Le journal avec vous, Charlotte Hydrac, bonjour.
Bonjour.
C'est un coup de tonnerre pour la droite française. Le patron des Républicains souhaite une alliance avec le Rassemblement national.
Oui, on a vu des législatives anticipées. Nous avons besoin d'une alliance, a dit Éric Ciotti à la télévision à la mi-journée, ce qui a provoqué une avalanche de réactions au sein même de son parti. Pour le chef des députés LR, Olivier Marleix, Éric Ciotti n'engage que lui, je cite, et doit quitter la présidence des Républicains. Dans le camp présidentiel, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, estime qu'Éric Ciotti enfonce dans le déshonneur la famille gaulliste. Indignation aussi à gauche. Manon Aubry est eurodéputée de la France Insoumise.
Ça dit clairement que la droite républicaine est morte, ce qui est un choc pour nous toutes et pour nous tous. L'alliance du pire du libéralisme économique avec le pire du réactionnaire qui s'attaque aux droits des exilés, aux droits des femmes, c'est vraiment le pire pour notre pays. Mais face à ce front réactionnaire, nous allons lui opposer le Front populaire pour que la gauche soit en capacité de barrer la route à cette nouvelle alliance de la droite et de l'extrême droite.
Voilà, Manon Aubry de la France Insoumise, jointe par Aurélien Devernois. C'est un nouveau séisme politique après la dissolution annoncée dimanche soir. Marine Le Pen, de son côté, salue un choix courageux. Tractation tous azimuts, donc, avant les élections. La gauche tente de s'unir au sein d'un nouveau front populaire pour faire barrage à l'extrême droite. À l'Assemblée, les députés sortants font leur carton. Les travaux sont suspendus. Les projets et propositions de loi, mais aussi les commissions d'enquête, tout ça, ça passe à la trappe, Valérie Cohen.
Oui, fini donc l'examen du projet de loi sur la fin de vie qui visait à développer les soins palliatifs et autoriser l'aide à mourir sous conditions. Un texte hautement sensible présenté par le gouvernement en avril après des mois de réflexion et de tergiversation. Alors pour que le sujet revienne à l'ordre du jour, il faudrait que le prochain gouvernement ou des parlementaires présentent à nouveau un texte. Idem pour la très controversée réforme de l'audiovisuel public qui devait être débattue dans l'hémicycle fin juin. Elle devait regrouper France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA dans une holding, première étape avant leur fusion. La dissolution met également un terme aux commissions d'enquête, comme celle concernant les manquements de l'État sur l'aide sociale à l'enfance qui prend en charge les enfants en danger. Exit aussi la commission d'enquête dédiée à l'A69, le projet d'autoroute contestée dans le sud de la France. Au Sénat, des textes à l'agenda font également les frais de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est notamment le cas d'une proposition de loi sur l'énergie, censée être étudiée cette semaine. Elle est rangée dans le tiroir.
Valérie Cohen. J'ajoute que le Premier ministre Gabriel Attal sera l'invité ce soir de la chaîne de télé TF1. Le président Emmanuel Macron, lui, s'exprimera demain, finalement, lors d'une conférence de presse et non pas cet après-midi comme initialement annoncé. En tout cas, le chef de l'État exclut de démissionner, quel que soit le résultat des législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Il le dit dans un entretien au Figaro Magazine.
Et après les élections européennes, la poussée des partis d'extrême droite, le président ukrainien dénonce une rhétorique pro-russe dangereuse, selon lui.
Volodymyr Zelensky, qui participe à une conférence internationale sur la reconstruction de son pays. Ça se passe à Berlin, où l'on vous retrouve en direct, Pascal Thibault. Le but de cette conférence, c'est moins de récolter des fonds que de préparer l'avenir de l'Ukraine, donc du pays en guerre, en mobilisant les investissements privés.
Oui, tout à fait. Préparer la reconstruction, même si la guerre sur le terrain continue. C'est un peu l'objectif de cette rencontre à Berlin, après celle de Lugano en 2022 et à Londres en 2023. Environ 2000 personnes participent à ce rendez-vous à Berlin aujourd'hui et demain, ce qui est bien plus important que pour les deux précédents rendez-vous. Cette conférence, elle associe non seulement des responsables politiques ukrainiens et d'autres pays, mais aussi la société civile, des municipalités par exemple, qui dans d'autres pays souhaitent établir des contacts avec des communes ukrainiennes pour les soutenir, et la société civile en général. Et puis, il y a un forum qui doit permettre à des entreprises présentes en nombre sur place de proposer leurs services en quelque sorte. 4 sociétés allemandes sur 10, par exemple, actuellement présentes en Ukraine, ont estimé dans un sondage qu'elles veulent augmenter leurs investissements sur place malgré les difficultés. Le but, donc, travailler à des perspectives à long terme, mais sans attendre la fin de la guerre, mais aussi, bien sûr, on a parlé ici aussi des urgences immédiates. Le chancelier Scholz a appelé ses alliés à faire plus pour renforcer les moyens en défense aérienne de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui vient de s'exprimer d'ailleurs devant le Parlement allemand, a estimé à la conférence que son pays nécessitait au moins 7 systèmes Patriot antimissiles supplémentaires pour se protéger plus efficacement contre les attaques aériennes russes.
Pascal Thibault, en direct de Berlin pour ce rendez-vous avant une autre conférence prévue ce week-end en Suisse, ce sommet pour la paix en Ukraine avec la participation de plus de 90 pays et organisations, mais pas la Russie ni la Chine. Suite de la tournée d'Anthony Blinken au Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Jordanie où se tient là une conférence internationale pour mobiliser des fonds en faveur des Palestiniens de Gaza. Et avant cela, le secrétaire d'État a défendu en Israël le plan de cessez-le-feu présenté par Joe Biden, une feuille de route désormais soutenue par le Conseil de sécurité de l'ONU. Anthony Blinken a de nouveau appelé le mouvement palestinien du Hamas a accepté cet accord. Un tragique naufrage au large du Yémen, un bateau transportant plus de 200 migrants a coulé hier. 49 personnes au moins sont décédées. C'est le dernier bilan avancé par l'Organisation internationale des migrations. Chaque année, des dizaines de milliers de migrants de la Corne de l'Afrique empruntent cette route de l'Est qui traverse la mer Rouge en direction des pays du Golfe.
15h07 ici à Paris. Vous connaissiez Apple. Voici maintenant Apple Intelligence.
C'est un nouveau système d'optimisation des appareils Apple et le fruit d'un partenariat entre la firme à la pomme et OpenAI qui a notamment développé ChatGPT. Cette nouvelle coopération a été présentée hier au siège d'Apple. Agnieszka Kumor.
La nouvelle fonctionnalité d'Apple s'appuie sur l'assistant Siri, connu de tous les utilisateurs d'iPhone, mais qui a bénéficié d'une mise à jour radicale. L'utilisateur pourra faire ses demandes à Siri par écrit ou par oral pour trouver une photo ou un mail en donnant son résumé succinct. Baptisé Apple Intelligence, ce système figurera dans la nouvelle version du système d'exploitation iOS 18. Selon Tim Cook, le patron de la firme à la pomme, cette optimisation va s'avérer bientôt indispensable dans nos vies. La nouvelle fonctionnalité sera disponible dès cet été, mais uniquement pour les utilisateurs américains de l'iPhone 15 Pro, de iPad et de Mac équipés de puces ultra puissantes. Les utilisateurs français et européens devront encore patienter. L'alliance d'Apple avec OpenAI a attiré les foudres d'Elon Musk, le puissant patron de SpaceX, de X ou encore de Tesla, a assuré qu'il bannirait les iPhones de ses entreprises à cause des menace, selon lui, sur la sécurité des données.
Agnieszka Kumor, retour en France où la sanction est tombée pour Guillaume Meurice. L'humoriste est finalement licencié par Radio France après des mois de turbulences autour d'une de ses chroniques, des propos polémiques concernant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La direction de Radio France a justifié ce licenciement par une déloyauté répétée, je cite. Et puis c'est extrêmement rare, en Thaïlande, une éléphante a donné naissance à des jumeaux de sexe différent, deux beaux bébés de 80 et 60 kilos. Tout le monde se porte bien et conformément à la coutume thaïlandaise, les deux jumeaux seront nommés 7 jours après leur naissance.
Et j'en profite pour vous dire, parce que je l'ai appris il y a une heure dans le journal, qu'on a appris grâce à des découvertes scientifiques que les éléphants se parlent et s'appellent même par leur prénom. À tout à l'heure, Charlotte.
À tout à l'heure.
Il est 15h09 ici à Paris et nous, on va parler de l'actualité du continent américain durant les 20 prochaines minutes.
RFI Midi. Gonaïve, 90.5 FM.
Nous sommes en Haïti pour commencer, en ligne avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour.
Bonjour Anne.
Ça se précise, le nouveau gouvernement, l'équipe de transition tant attendue devrait être présentée aujourd'hui.
Oui, mais c'est encore l'attente quand même. Le cabinet ministériel doit être présenté à la nation incessamment, assure le bureau du Premier ministre. Ce dernier a annoncé hier avoir soumis une composition au Conseil présidentiel de transition et que les travaux se poursuivaient encore autour de la liste finale. Une rencontre a eu lieu hier sur le dossier entre Gary Conille et Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil. Des noms d'éventuels titulaires circulent sur les réseaux sociaux ainsi qu'un nombre probable de ministres retenus, qui ne devraient pas dépasser 18. Certains ministres auraient deux portefeuilles, mais tout reste à confirmer car tant qu'un arrêté ne sera pas publié dans le journal officiel Le Moniteur, des changements pourront intervenir.
Godson Pierre, vous revenez aussi dans Alter Press sur la mort de trois policiers durant le week-end avec cette déclaration du nouveau Premier ministre. Gary Conille a présenté ses condoléances aux familles. Il a salué l'engagement de ceux qui luttent contre les gangs et il a adressé un message.
Je condamne à toute force les actes criminels et je continue mon engagement pour me battre sans prendre souffle contre violence et impunité. Pressé, il faut que nous mettions la patte sur les gens qui commettent des crimes, arrêtez-les et puis traînez-les devant la justice.
On l'entend, le Premier ministre haïtien de transition réclame l'arrestation des coupables et Alter Press y revient aujourd'hui, Godson.
Et il a aussi demandé à la population de coopérer pleinement avec les autorités pour fournir toute information susceptible d'aider à l'arrestation des auteurs de ces atrocités. La sécurité et la justice sont des responsabilités partagées et ensemble, nous devons œuvrer pour un avenir plus sûr et plus juste, a-t-il dit. Conille réaffirme sa détermination à renforcer les mesures de sécurité dès que son gouvernement sera en place. Le récent assassinat des trois policiers porte à 21 le nombre d'agents tués par des bandits armés depuis le début de l'année.
Et la mort de ces trois policiers vient rappeler que les violences des gangs sont toujours quotidiennes. En témoigne aussi, Godson, le nombre de déplacés en augmentation et notamment dans le Grand Sud d'Haïti.
D'abord, plus de 578 000 personnes déplacées en Haïti en raison de l'escalade de violence. C'est le nouveau chiffre communiqué par l'Organisation internationale pour les migrations. Et jusqu'à mars, il faut quand même le noter, ce chiffre était évalué à seulement 362 000. Un afflux de personnes déplacées vers le sud, alors que le pourcentage de déplacés dans la zone métropolitaine est de 15 %. Celui des personnes qui se dirigent vers les départements au sud du pays est estimé à 130%.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On peut vous lire en ligne sur alterpress.org et nous vous retrouverons comme tous les mardis la semaine prochaine en direct de Port-au-Prince.
RFI Midi, Anne Contner.
On va parler maintenant d'une rencontre symbolique au Mexique. Pour la première fois depuis la présidentielle il y a 10 jours, le chef de l'État a reçu la présidente élue, sa dauphine, Claudia Sheinbaum. Un début de passation, Antoine Galen.
Effectivement, Claudia Sheinbaum et son prédécesseur main dans la main devant les portes du Palais National de Mexico. Objectif, se mettre d'accord sur les termes de la transition et les chantiers du début de mandat, comme le souligne le journal Milenio. L'investiture de Claudia Sheinbaum est prévue le 1er octobre. Elle a d'ailleurs détaillé dans une conférence de presse les trois grandes réformes qu'elle souhaite promouvoir.
La garantía o el derecho à las becas de educación básica.
On l'entend ici, elle veut notamment revaloriser les retraites du secteur public, réformer le pouvoir judiciaire et s'attaquer aux questions constitutionnelles. La première femme de l'histoire à la tête du Mexique, qui promet de nommer son cabinet la semaine prochaine, devrait, selon ses annonces, rencontrer ce mercredi une délégation de l'administration américaine, sans plus de précisions, telles que le rapporte Elle Universal.
Antoine Galen, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. Mais avant cela, on va parler d'une autre élection présidentielle cette année en Amérique latine. Le Venezuela votera dans un mois et demi et l'opposition met toute son énergie dans la campagne, notamment Edmundo González Urrutia, celui qui a pris la place de la très populaire María Corina Machado, la leader écartée par la justice, mais que les gens acclament encore dans les meetings. Alice Campagnol, les sondages donnent l'opposition gagnante en juillet face au président sortant Maduro. Et cette perspective porte les militants qui ne se font pas d'illusions sur le pouvoir, sur de nouvelles tentatives d'influencer l'issue du scrutin. Reportage lors d'un meeting dans les environs de Caracas.
L'ambiance est à la fête dans ce gymnase du village de El Atillo, au sud de Caracas, tandis que le lieu se remplit peu à peu de supporters venus de tout le pays et en attendant que parlent Edmundo et Maria Corina, les militants se confient.
Nous allons gagner, j'en suis absolument convaincu. Et je ne vous dis pas ça seulement par rapport au sondage, je vous parle de nos visites chez les gens. J'ai la certitude que les gens sont avec Edmundo et Maria Corina.
La gente está con Maria Corina.
Car si le candidat présidentiel, c'est Edmundo González Urrutia, encore inconnu il y a quelques mois, la véritable star ici, c'est la très libérale Maria Corina Machado. Les supporters présents n'ont que son nom à la bouche, comme Carlos Contreras.
Maria Corina es la única líder.
Maria Corina, c'est la seule qui soit capable de nous mener sur le chemin de la liberté. Et ce, peu importe les obstacles du régime de Nicolas Maduro. Cette femme fait un travail incroyable. Les citoyens vulnérables ont compris ce qu'elle a prévu de faire dans les quartiers. Car les gens sont fatigués. Cela fait 25 ans que le gouvernement nous promet de reconstruire notre économie. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Plus de dévaluation, plus d'inflation, ils ne font pas le job. Mais elle, cette dame de fer, elle va réussir.
Carlos vient d'un quartier populaire et c'est bien là le succès de l'opposition ces derniers mois. Chassé sur les terres de Maduro et du Parti socialiste du Venezuela, les zones défavorisées, en surfant sur les failles du service public. Johnny Peña.
On a un grand problème d'infrastructure. Les services publics ne servent à rien. Il y a des foyers où il n'y a de l'eau courante qu'une fois par mois. Nous ne méritons pas ça. Nous sommes un pays si riche. Nous avons tellement de richesses naturelles. Non, nous ne méritons pas ce qui nous arrive. Nous avons la plus grande réserve de pétrole au monde, mais on fait la queue pour faire le plein. Le votant chaviste, qui vient réellement du peuple, qui a cru en Chavez, il sait qu'on se moque de lui. Aujourd'hui, il y a des gens à nos côtés qui regrettent d'avoir un jour voté pour Maduro.
Si les militants semblent sentir un vent nouveau souffler sur le pays dans le sillage de Maria Corina Machado, pas sûr que le gouvernement leur laisse la voie libre. On rencontre Benigno Alarcón à Caracas, c'est le directeur du Centre d'études politiques et de gouvernement.
Les chiffres, les statistiques le disent, le gouvernement va perdre l'élection, ce n'est un secret pour personne. Donc évidemment, le gouvernement va mettre en place des tactiques pour faire croire qu'il a gagné le vote. Et si peu de temps avant l'élection, il sent que l'opposition a ses chances, il va mettre en place des stratégies. C'est là que l'on craint que quelques semaines avant le vote, il ne retire la candidature d'Edmundo portée par les partis ou bien qu'il lui retire son habilitation.
À pocas semanas de l'élection, o si inhabilitarán al candidato.
À quelques semaines de l'élection, rien n'est encore joué et l'opposition, si elle a beaucoup d'espoir quant à ce scrutin, s'attend à rencontrer de nouveaux obstacles sur son chemin électoral. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site internet rfi.fr. L'actualité du continent, c'est aussi la visite en Europe du président chilien. La deuxième pour Gabriel Boric avec des escales cette fois-ci en Allemagne, en Suède, en Suisse, puis en France. L'objectif, c'est de trouver des investisseurs pour développer l'industrie du lithium au Chili, pour soutenir aussi les énergies vertes. Et afin d'y parvenir, Naila de Rouanet, le président chilien met en avant l'interdépendance entre son pays et les Européens. Naila de Rouanet, on va essayer de retrouver ses explications sur cette visite donc du président chilien en Europe afin de développer donc un certain nombre de secteurs, notamment l'industrie du lithium ou encore les énergies vertes. En attendant, on va vous retrouver Antoine Galen pour parler de l'actualité du continent. Nous sommes aux États-Unis cette fois où le procès d'Hunter Biden touche à sa fin.
Le fils de Joe Biden va-t-il être condamné pour détention illégale d'armes ? Le jury de l'État du Delaware s'est retiré lundi soir pour délibérer sans parvenir à une décision. Ces 12 membres qui, la semaine dernière, ont entendu des détails saisissants et personnels sur la famille du président Joe Biden devraient poursuivre leurs délibérations ce matin, précise le site d'ABC News. Hunter Biden est accusé d'avoir menti en remplissant des formulaires pour l'acquisition d'une arme de poing en 2018 dans lesquels il niait l'addiction à la drogue. Il l'a pourtant reconnu par la suite. Aujourd'hui, Hunter Biden plaide non coupable. À 5 mois de l'élection présidentielle, le couple Biden a affiché son soutien à son fils, mais le président a assuré qu'il ne lui accorderait pas de grâce présidentielle s'il était condamné.
Et puis toujours aux États-Unis, à Baltimore, le trafic maritime est enfin complètement rétabli.
Il a fallu plus de 2000 personnes pour travailler pendant près de 11 semaines, écrit le New York Times. Conséquence de l'effondrement d'un pont dans l'estuaire du fleuve Patapsco, lorsqu'un cargo singapourien s'est engouffré dans un des piliers il y a 2 mois et demi. Le chenal a été restauré dans ses dimensions d'origine. 50 000 tonnes de débris ont été déblayées. Et il y avait urgence car le port de Baltimore est une véritable plaque tournante du commerce de véhicules neufs aux États-Unis. 850 000 voitures et camions y ont transité l'année dernière, plus que n'importe quel autre port américain.
Merci Antoine Galen. Il est 15h21 ici à Paris. On a retrouvé les explications donc sur cette visite du président chilien en Europe. On en a parlé, il vient pour essayer de développer l'industrie du lithium dans son pays ainsi que les énergies vertes. Et il insiste sur les liens qui existent entre son pays et les Européens, sur la dépendance des uns et des autres.
Pour affronter la crise climatique, l'Europe a besoin du Chili et inversement. C'est en substance le message délivré par Gabriel Boric aux pays européens qui convoitent le précieux lithium chilien, ce métal indispensable à la transition énergétique et dont le Chili est le deuxième producteur mondial. Mais pour le président chilien, il n'est pas question de simplement exporter cet or blanc. Gabriel Boric veut en tirer le plus de bénéfices possible en créant notamment des chaînes de valeur ajoutée. Il est donc venu chercher le savoir-faire des entreprises européennes en la matière. Son voyage sur le vieux continent ne s'arrête pas là. Le président chilien inaugure aujourd'hui en Allemagne un forum économique autour des énergies propres, notamment l'hydrogène vert que le Chili souhaite développer davantage. En Allemagne, toujours et au chapitre des droits de l'homme, Gabriel Boric parlera des victimes de l'ancienne Colonia Dignidad qui n'ont toujours pas obtenu réparation auprès de l'État allemand. Le président chilien participera également au sommet de la paix pour l'Ukraine en Suisse les 15 et 16 juin, avant un dernier arrêt à Paris où il rencontrera Emmanuel Macron. Naïla de Rouanet, Santiago, RFI.
Naïla de Rouanet, correspondante au Chili. Il est 13h22 en temps universel. On va parler maintenant de l'actualité des Outre-mer. Avec nos confrères de La Première, bonjour Tiziana Marone.
Bonjour Anne.
En Guadeloupe, les partis de gauche sont réunis pour un appel à plus d'autonomie pour le département.
Oui, pas moins de 9 organisations politiques, dont le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, des partis autonomistes et indépendantistes, étaient réunis. Un moment historique, puisque leurs divergences ont laissé la place à leur point commun, l'autonomie pour le département. Ils ont d'ailleurs décidé de boycotter le 18e congrès des élus guadeloupéens qui doit se tenir demain. Les explications de l'un des signataires de la déclaration commune, Jean-Jacob Bissep, secrétaire général de l'UPLG, l'Union Populaire pour la libération de la Guadeloupe. Il répond à Pascal Pétrine de Guadeloupe La Première.
L'urgence exige autre chose aujourd'hui. Nous avons vu ce qui s'est passé, la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Ça veut dire que l'urgence est aujourd'hui que le peuple guadeloupéen soit en capacité de prendre son destin en main. Si nous sommes tous là, 9 organisations politiques réunies pour la première fois, sans que personne n'est renoncé à quoi que ce soit. Nous nous mettons ensemble avec d'autres partis parce que l'urgence, c'est de sauver la Guadeloupe. Nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses qui nous paraissent essentielles afin de construire une alternative politique fiable et crédible pour le peuple guadeloupéen.
Le dossier judiciaire de l'empoisonnement au chlordécone des populations antillaises devant la cour d'appel de Paris hier. Pour rappel, le chlordécone est ce puissant pesticide utilisé aux Antilles alors qu'il avait été interdit en France hexagonale. La cour d'appel a renvoyé le procès au 22 octobre prochain. Pour les avocats des victimes présents sur place, cette nouvelle date va permettre de soulever de nouveaux points dans cette procédure qui dure depuis 17 ans. Tessa Gromann.
Ce devait être une audience consacrée au non-lieu dans l'affaire de l'empoisonnement des populations antillaises au chlordécone. Mais 2 avocats des parties civiles en ont profité pour demander l'examen de nouveaux éléments. Notamment une révision de la notion d'empoisonnement qui est définie depuis quelques années par la volonté de tuer. Maître Christophe Leguevac.
Jusqu'en 1998, on se contentait du seul fait de mettre du poison dans un puits pour dire c'est un empoisonnement. Donc là, il y a une question essentielle qui va avoir des conséquences sur toute l'issue de la procédure.
Ce sera donc l'une des des questions pour lesquelles la Cour d'appel rendra sa décision le 22 octobre prochain. Décision qui pourrait impliquer un renvoi vers la Cour de cassation, puis le Conseil constitutionnel. Autant dire que l'examen du non-lieu et de la reprise possible d'une instruction de l'affaire du chlordécone n'est pas pour demain. Ce que regrette amèrement maître Harry Durimel, autre avocat de la partie civile.
Nous voulons faire casser l'ordonnance de non-lieu. Nous ne sommes pas dans des acrobaties judiciaires pour nous faire mousser, nous ne sommes pas là pour faire la pub de notre cabinet, nous sommes des victimes, nous sommes des gens empoisonnés.
Un point sur lequel les avocats des parties civiles s'accordent, si le non-lieu est confirmé un jour par la cour d'appel, ils iront jusqu'en cassation.
Un reportage de Tessa Groman. Et avant de vous quitter, en bref, en Martinique, en vue des élections législatives anticipées, les appels à faire barrage à l'extrême droite se multiplient. Dans une lettre ouverte, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, appelle, je cite, à élever nos voix contre l'intolérance, la haine, la division et l'injustice. Restons exigeants et intraitables face à ceux qui tentent de manipuler nos frustrations à des fins inavouables. Fin de citation. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Tiziana Marone. On va parler musique avant de se quitter d'un groupe très connu dans les années 70 aux États-Unis, les Staples Junior Singers. Une famille de chanteurs, adolescents à l'époque, est rendue célèbre par leur gospel aux tonalités soul ainsi que leurs textes engagés pour les droits civiques. Il leur a fallu 50 ans pour enregistrer un nouvel album, Carmen Lunsman. Il s'appelle Searching et il sortira à la fin de la semaine.
Tout a commencé dans les années 60 dans une petite ville du Mississippi, à une époque où la ségrégation est abolie sur le papier, mais toujours présente dans les esprits. L'église devient une échappatoire pour la famille Brown face aux humiliations d'une Amérique raciste. Annie Brown, aujourd'hui la soixantaine à la voix charismatique, a 11 ans lorsqu'elle se met à chanter avec ses frères et sœurs. Le groupe se nomme les Staples Junior Singers, d'après leurs idoles, The Staples Singers aux accents groove, soul, funk. Premier album en 1975, When Do We Get Paid, quand est-ce qu'on sera payé, au texte qui reflète les luttes et les espoirs de la population afro-américaine, puis plus rien. Jusqu'à une réédition de l'album il y a 2 ans qui les inspire à enregistrer une suite en 2 jours. Une quête qui ne fait que commencer pour ces sexagénaires juvéniles avec Searching, album gospel soul sublimé par des guitares bluesy et la foi en un avenir plus lumineux.
Les Staples Junior Singers en concert dans 2 semaines à Paris avant une tournée en Europe, à Londres, Barcelone, Berlin, Prague ou Oslo. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Carmen Lunsman nous le rappelait, c'est un hommage aux Staples Singers, véritables stars dans les années 70. On va les écouter un petit peu.
No.
Et c'est ainsi avec les voix des Staple Singers que se termine RFI Midi, émission réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous restez sur RFI dans quelques secondes maintenant, de vive voix.